Chapitre 10. Samedi 4 novembre. Anne est rentrée très tard hier soir et elle a un mal fou à se réveiller ce matin. Elle accélère un peu sa toilette et va frapper chez Piem pour lui rendre les clés de la fourgonnette et lui donner en quelques mots les résultats de son enquête. Ils n'ont que quelques minutes car Piem part aussi travailler ce samedi. Ils se quittent en décidant de se revoir dimanche après-midi pour faire le point. Anne n'a pas oublié la proposition de Jean-Baptiste. Pourtant, il ne lui a toujours pas fixé de rendez-vous. C'est donc sans trop de surprise qu'elle le voit entrer à la boulangerie un peu avant midi. Il s'arrange pour que ce soit elle qui le serve et, au moment où elle lui rend la monnaie, il murmure « Ce soir, 9 h, à l'endroit habituel. » En guise de réponse, Anne se contente de hocher la tête comme si le plus grand secret était nécessaire au succès de l'entreprise. C'est très amusant de partager ainsi des secrets d'amoureux. En début d'après-midi, après avoir déjeuné d'un sandwich, elle part à la recherche d'une robe qui a un peu d'allure pour sortir. Aller danser en jean et en pull ne la dérangerait pas, au contraire, elle serait certainement plus à l'aise, mais cela pourrait contrarier Jean-Baptiste. Elle a bien la robe que lui a donnée Monique et qu'elle a portée dimanche dernier, mais pour le coup, elle la trouve trop habillée. Et puis, cela la gêne un peu de mettre une robe qui lui vient des amis de Piem pour sortir avec Jean-Baptiste. Tout ce qu'elle trouve qui fasse habiller lui paraît, à elle, trop déshabillé. Si le col est sage, le bas est si court qu'elle montre ses cuisses à tout le monde, et si la robe est longue, elle n'a plus rien pour se couvrir les épaules et les décolletés béants lui font peur. Elle fait plusieurs magasins sans rien trouver qui la tente. Chaque fois, elle remet son pull et son jean avec plaisir. Finalement, il n'y a que là-dedans qu'elle se sent à l'aise et bien au chaud. Dans un petit magasin à tendance exotique, elle hésite pour un ensemble japonais. Le col rond est bien fermé, le pantalon descend jusqu'en bas. Les couleurs chatoyantes lui plaisent bien. Mais ça ressemble un peu à un pyjama, elle n'est pas sûre que Jean-Baptiste apprécie. La vendeuse, qui ose lui faire part de ses remarques, prend le temps de la guider dans le magasin et lui propose un kimono. L'ample soierie aux couleurs vives est très lumineuse, le haut est très sage, avec de petites manches, et le bas tombe sur ses pieds. « Génial !» déclare Anne en s'apercevant dans un miroir. « Exactement ce que je cherchais !»« Effectivement, reprend la vendeuse, il vous va à merveille !»« Et comme ça, vous êtes tranquille, vous ne montrez rien !» continue Anne, prolongeant en pensée la réflexion de la vendeuse qui, elle, montre tout ce qu'elle peut. Elle porte un short noir aussi court que possible, on lui voit le nombril et presque la moitié des seins. Vers 21 h, Anne retrouve Jean-Baptiste au lutèce. Il embrasse délicatement, mais ne fait aucune réflexion sur sa tenue. En buvant un premier verre, il lui propose de l'emmener dîner dans un resto branché qu'il connaît. Ce restaurant propose de la cuisine moderne, servie dans un cadre ultra-moderne, tendance intergalactique. Des spots aux couleurs criardes jettent un peu partout des taches de lumière sur le sol et les murs blancs. La salle est bondée. Les clients sont tellement serrés qu'une fois installés, il n'est plus question de bouger. Les serveuses, habillées de blanc comme des joueuses de tennis, changent de couleur en fonction de la lumière en se faufilant entre les tables. Anne et Jean-Baptiste s'assoient sur des chaises en plexiglas assez raides. La table et même les assiettes sont transparentes. La musique est bien trop forte. Même si elle n'en laisse rien voir, Anne est un peu déçue par le menu. Ce ne sont que des mélanges colorés, présentations extravagantes et goûts bizarres. Visiblement, il s'agit plus de surprendre le client que de le régaler. « Ça te plaît ?» demande Jean-Baptiste en forçant la voix. « Oui, c'est original. Ça change un peu de tous ces restos classiques pour bons bourgeois gourmets. »« Oui, c'est ça, ça change. » Après un dessert glacé multicolore qui contenait autant de salé que les autres plats du sucré, Jean-Baptiste paie et ils ressortent, à la grande satisfaction d'Anne, qui avait de plus en plus de mal à supporter l'ambiance agressive de l'endroit. Le pire était qu'ils n'ont pas pu échanger plus d'une dizaine de phrases en hurlant pour couvrir le fond sonore. Jean-Baptiste lui propose alors, comme prévu, d'aller danser. Anne n'a jamais mis les pieds dans une boîte de nuit, mais elle en a souvent entendu parler. Elle a un peu peur que ça ressemble au restaurant qu'elle vient de quitter. Elle aurait préféré un bal populaire ou un restaurant dansant. Mais c'est une soirée initiatique, elle est venue pour découvrir, alors en avant. Tandis qu'ils marchent vers la station de métro, bras dessous, Anne, que le souci de l'enquête ne lâche pas, pose une question. « Tu as eu des nouvelles du notaire pour l'héritage ?»« Ah oui, l'héritage, c'est presque une blague. » « Comment ça, une blague ?»« Je devrais toucher un peu moins de 100 000 francs. Tout juste de quoi acheter un fourgon. »« C'est curieux, je croyais ton grand-père riche. »« Moi aussi, mais jamais il ne m'a dit combien il avait. Nous ne parlions pas de cela entre nous. » »« Tout de même, je trouve cela curieux. En tant qu'ancien artisan, il devait bien savoir combien il faut pour s'installer à son compte. Au fait, combien te faut-il ?» Un minimum de 500 000 francs. Les machines, l'outillage, la remise en état de l'atelier que je compte reprendre, c'est-à-dire l'installation électrique et le chauffage, le fourgon, un peu de bois d'avance pour le faire sécher. Note qu'en cherchant dans les occasions, je pourrais sûrement m'en sortir à moins, mais c'est vrai que je comptais sur l'argent de grand-père pour partir sur du neuf. Tu comprends, les machines d'occasion sont moins chères parce qu'elles ne sont plus aux normes. Et si mes machines ne sont pas aux normes, je m'interdis d'avance la possibilité de prendre un ouvrier ou même un apprenti. Si j'achète un vieux fourgon pourri, je ne serai jamais sûr qu'il veuille bien démarrer le jour où j'en aurai besoin. Si je n'ai pas de stock de bois, il faudra que je l'achète au fur et à mesure et je ne saurai jamais s'il est assez sec, ce qui risque de me causer bien des surprises. Et pourtant, je suis bien décidé à me lancer. Je ferai avec ce que je pourrai trouver et j'accepterai les emmerdements qui iront avec. Tu as raison, je ne suis pas très au courant des difficultés des artisans, je n'en ai pas dans ma famille, mais tu as raison, il faut aller de l'avant. Quand on a un projet sérieux qui tient la route, il ne faut pas se laisser arrêter par quelques difficultés matérielles. Des machines et un fourgon neuf, tu pourras toujours en acheter plus tard si ça marche bien. Et moi, je peux peut-être t'aider aussi. Je n'ai pas beaucoup d'argent de côté, mais si ça peut te permettre d'être un peu plus à l'aise au début... C'est super sympa, mais j'avoue que si je peux éviter d'emprunter trop d'argent à mes amis, on ne sait jamais, et si je ne pouvais pas rembourser... Il monte dans le métro. Anne réfléchit en silence. S'il manque 400 000 francs à Jean-Baptiste, ce n'est pas moi qui pourrais lui prêter cette somme. Il faudrait que je travaille des années pour gagner ça. Ils entrent dans la boîte de nuit, le lion vert. Jean-Baptiste la tient par les épaules, serrée contre lui. Ils franchissent une sorte de barrage entre les deux colosses qui gardent l'entrée en détaillant les nouveaux arrivants de leurs yeux inquisiteurs. Ils posent ensuite leurs blousons au vestiaire et pénètrent dans la salle. Anne découvre. La musique est très forte, assourdissante. La salle est plutôt obscure et enfumée. Il est bien difficile d'en deviner les dimensions. Des éclairs lumineux la traversent en tous sens. Au milieu, sur la piste, des garçons, des filles et des couples dansent, chacun selon son inspiration. Ils paraissent s'éclater dans leur bulle, indifférents à ce qui se passe autour d'eux. Anne comprend immédiatement que sa tenue ne convient pas à l'endroit. Elle est bien trop sage. L'immense majorité des filles portent des tenues très sexy, très dénudées dans l'ensemble, calculées pour exciter les garçons. « Mais je ne suis pas venue pour exciter les garçons, pas plus Jean-Baptiste que les autres. » Jean-Baptiste l'entraîne vers une banquette libre dans un recoin sombre qu'elle n'avait pas remarqué. Un serveur vient prendre la commande. Anne n'entend même pas ce qu'ils se disent. Elle remarque que de nombreux couples sont installés sur des banquettes semblables tout autour de la salle. Ils bâillent, se sourient amoureusement, s'embrassent à pleine bouche et même se caressent plus ou moins discrètement. À côté d'eux, le garçon a glissé une main sous la jupette de la fille et de l'autre lui caresse un sein qu'il a complètement dégagé du bustier. Anne est un peu surprise, presque écœurée. « On peut donc faire n'importe quoi ici ?» Jean-Baptiste se montre très à l'aise, en habitué de l'endroit et nullement choqué de ce qui s'y passe. « Est-ce que Jean-Baptiste m'a conduite ici pour me peloter et me sauter dessus ainsi, devant tout le monde ?» Le serveur apporte deux verres remplis d'un mélange coloré. Anne goûte. « C'est très bon. Fruité, sucré, mais c'est alcoolisé. Pas très fort, mais il y a de l'alcool quand même. J'ai intérêt à le boire le plus lentement possible. Tu viens danser ? Lui demande-t-il, plus par le geste que par la parole. Anne se lève, le suit sur la piste. Elle préférerait danser avec Jean-Baptiste dans un coin tranquille plutôt que de se donner en spectacle, là, au milieu, devant tout le monde. J'ai quand même de la chance. Il est plutôt mignon, Jean-Baptiste. Il y en a plein ici dont on ne peut pas en dire autant. En plus, il est doux, patient, attentif. Je suis bien tombée. Enfin, je crois que je peux avoir confiance. Anne le suit en admirant sa démarche féline, son pas légèrement déhanché qui se prépare à danser, ses bras nus qui prennent le rythme de la musique. Elle a très envie de danser avec lui, d'être dans ses bras. Ils commencent par danser l'un en face de l'autre en se souriant, comme si, petit à petit, ils se découvraient toutes sortes de points communs. Anne se laisse emporter au rythme de la musique, plus loin, plus haut, ensemble. Quand Anne sent ses jambes fatiguées et son souffle s'épuiser, le DJ lance quelques slows. Jean-Baptiste lui tend les bras, elle le regarde plein de ravissement et de reconnaissance, s'approche et se jette contre sa poitrine, s'accroche à son cou. Jean-Baptiste referme ses bras. Elle ferme les yeux et se laisse emporter. Tout disparaît, il n'y a plus qu'elle et Jean-Baptiste. Elle vit un présent intense et merveilleux. Son cœur est comblé. Elle pourrait mourir maintenant, elle ne désire rien d'autre. Quand la série de slow s'achève et que la musique disco reprend, ils abandonnent la piste et vont s'asseoir sur leur banquette, reprendre des forces et se rafraîchir en sirotant le délicieux cocktail qui les a attendus. Dimanche 5 novembre. Il est très tard, ou plutôt très tôt ce dimanche matin, quand Jean-Baptiste raccompagne Anne jusque devant son immeuble. Ils s'embrassent longuement. Anne comprend que Jean-Baptiste a du mal à la quitter comme ça. Il n'attend qu'un modèle pour monter prendre un dernier verre dans son appartement. Mais Anne ne veut pas que leur histoire finisse comme ça. Ce serait trop bête. Elle tient à construire quelque chose de sérieux avec lui et refuse de se limiter à un plaisir immédiat et trop facile qui risquerait d'être sans lendemain. Elle se dit qu'il ne lui reste guère plus de 2 heures à dormir avant de se lever pour partir au travail. La nuit précédente ayant déjà été courte, elle risque de n'être pas très en forme pour attaquer la plus grosse journée de la semaine. Sa tante ne manquera pas de le lui faire remarquer. Ce n'est pas qu'elle soit méchante femme, mais pour elle, le travail passe avant tout. Anne rentre en début d'après-midi avec une énorme envie de se coucher et de dormir. Pourtant, elle a rendez-vous avec Piem pour faire le point.
« Il faut que j'arrive à dormir. En une demi-heure, 1 heure au maximum, on devrait pouvoir boucler ce point. J'espère que Piem ne va pas s'éterniser. »
En ouvrant sa porte, elle repère une lettre qui a été glissée dessous. Ce n'est pas courant de recevoir du courrier le dimanche. Elle l'ouvre, c'est un mot de Piem qui la fait rire. « Je suis crevée de cette semaine épuisante. Permets-moi de faire une petite sieste. On se voit après. Amitié, Piem. » Du coup, Anne se déshabille, tire les rideaux et se précipite dans son lit. Elle est réveillée un peu plus tard par des coups frappés à la porte.
« Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle heure est-il ? Quel jour sommes-nous ? Qui frappe ?»
Elle a dormi profondément. Elle a un mal fou à faire surface. Petit à petit, ses idées se remettent en place, ses repères lui reviennent.
« Il est 5 heures, il fait jour, c'est le soir. » « J'ai fait la sieste et c'est Piem qui frappe à la porte car nous avons rendez-vous. »
Elle se lève alors brusquement, se précipite vers la porte et demande.
« C'est toi, Piem ?»«
Oui, c'est moi. Tu vas bien ?»«
Oui, oui, une seconde. Je m'habille et je t'ouvre. »
La porte s'ouvre. Pierre-Emmanuel découvre Anne, échevelée, les yeux glauques, les pieds nus, le pull enfilé à l'envers.
« Tu es sûre que tout va bien ?»«
Très bien. » « J'ai fait comme toi, j'ai dormi. Heureusement que tu m'as réveillée, je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'aurais été capable de dormir. »«
Moi aussi, j'ai dormi. Excuse-moi, je ne pensais pas que j'allais te tirer du lit. Tu aurais peut-être préféré un réveil plus en douceur. » Anne met de l'eau à chauffer pour faire du thé et disparaît quelques minutes dans le cabinet de toilette pour mettre un peu d'ordre à sa tenue et à sa coiffure. Ensuite, elle raconte dans le détail son escapade à Blois et les conclusions qu'elle en a tirées, ses soupçons sur le fils de Germaine Lassier, un certain Antoine, établi dans le commerce.
Il me semble difficile que Germaine Lassier soit coupable ou même complice, intervient Piem. D'après ce que tu me dis, c'est une personne rangée qui n'en veut à personne et qui se contente du peu qu'elle a. D'autre part, si elle savait son fils compromis dans une quelconque affaire, elle n'aurait pas donné tous ces détails qui peuvent le faire soupçonner.
Sans donner de précision sur sa soirée en amoureux de la veille, elle rapporte l'information selon laquelle Jean-Baptiste n'hériterait de son grand-père qu'une somme symbolique par rapport à ce qu'il espérait.
« C'est très intéressant, affirme Piem. J'ai moi aussi une information intéressante. Vendredi soir, j'ai pu prendre du temps avec le comptable de la boîte pour parler de la comptabilité d'Émile Perrier que je lui avais demandé d'analyser. Il note un virage important sur les 5 dernières années avant la retraite. L'activité et les bénéfices ont été assez réguliers pendant des années. Et puis, tout à coup, le chiffre d'affaires s'est effondré, l'activité a diminué de moitié et les bénéfices sont devenus ridicules. Cela peut s'expliquer car c'est arrivé l'année 1977, l'année du décès de sa femme et de son fils Michel. Ce qui s'explique moins, et cela, il faut être comptable pour le voir, c'est que les dépenses de fourniture, d'achat de bois, de petit outillage n'ont pas baissé, elles ont même augmenté régulièrement de 1977 à 1982, l'année de sa retraite. Cela signifie qu'il continuait à travailler au même rythme qu'avant. Seulement, il oubliait de facturer son travail. Et là, on a deux possibilités. Soit, secoué par ses traumatismes familiaux, il perdait un peu la tête et travaillait sans se faire payer. Mais comment est-ce que cela a pu durer 5 ans? Soit il travaillait en grande partie au noir et se faisait payer en espèces qui échappaient à la comptabilité et donc au fisc. Il faut donc nous demander s'il est possible que le père Perrier ait perdu la tête à cette époque au point d'oublier de se faire payer. Franchement, cela m'étonne un peu. Il y a encore quelques semaines, à 80 ans, il avait toujours les idées claires. Qu'à la suite des décès de sa femme et de son fils, il ait eu quelques mois de flottement, pourquoi pas, mais pas pendant 5 ans.
À force, il a dû ramasser une petite fortune.
Pas sûr. Il est possible que cet argent ait été utilisé au fur et à mesure, soit pour des dépenses visibles, voyages, travaux, sorties, voitures, casinos, soit pour des dépenses moins visibles, par exemple si on le faisait chanter ou s'il avait de vieilles dettes à éponger.
Je pourrais demander à Jean-Baptiste ce qu'il en pense.
Oui, mais comme lui ne peut pas se souvenir, il faudra qu'il interroge sa mère. Tu pourrais aussi demander à ta comtesse dont j'ai oublié le nom.
Hermine d'Armentières? Bien sûr, je peux retourner la voir. Oui, il se peut qu'elle sache ou qu'elle ait remarqué quelque chose. En tout cas, c'est une piste à creuser. Ça pourrait coller avec cet Antoine qui fait des affaires louches, qui ne marche pas très fort et qui se mettent à aller mieux, comme par hasard, après la mort d'Émile Perrier.
Cet Antoine est sûrement la deuxième piste à creuser. Il va falloir retourner à Blois pour étudier son cas, mais regardons d'abord si on peut trouver son numéro de téléphone ou son adresse sur Internet.
Inutile. J'ai déjà regardé hier après-midi, il n'y a rien. Sa boutique doit avoir un nom commercial. S'il veut vendre, il doit bien être joignable quelque part, il ne peut pas rester caché. Il nous faut trouver le nom de son commerce.
Lundi 6 novembre. En application des conclusions du colloque de la veille, Anne passe un coup de fil à la comtesse d'Armentières en début d'après-midi et se présente chez elle à l'heure du thé.
Bonjour, ma petite Anne, comme c'est sympathique de penser à moi. Surtout, ne regarde pas la poussière, le ménage n'est pas fait.
« Ne vous inquiétez pas, répond Anne, je ne suis pas venue inspecter votre appartement. Je vous ai apporté des florentins. »«
C'est trop gentil, mais il ne fallait pas te mettre en frais. »«
Pour tout vous dire, c'était les 4 qui restaient, je les ai eus à très bon prix. »
Toutes deux éclatent de rire. Elles vont s'installer dans la bibliothèque comme la dernière fois.
« Veux-tu une tasse de thé pour accompagner les florentins ?»«
Avec plaisir !»
La vieille dame se relève et s'éloigne vers la cuisine.
« Je peux vous aider ?» demande Anne.
« Si tu veux, à condition que tu fermes les yeux, car la cuisine n'est sûrement pas aussi nette que chez toi. » Effectivement, Anne est surprise en entrant de voir l'évier plein de vaisselle sale, des miettes sur la table et par terre, et les plans de travail encombrés de toutes sortes de choses qui auraient leur place dans les placards. La vieille dame met la bouilloire sur le feu et désigne à Anne un plateau surchargé de verre sale. Anne le débarrasse, le rince et l'essuie. Elle cherche partout des tasses et des petites cuillères. Enfin, la vieille dame lui désigne un placard où il en reste quelques-uns propres.
« Marianne n'est pas encore revenue ?» demande Anne, qui croit comprendre la cause de tout ce désordre.
« Non, hélas, sa cheville a du mal à se remettre. Son arrêt de travail a encore été prolongé. Je suis allée la voir la semaine dernière. La pauvre ne peut toujours pas poser le pied par terre. En attendant, je fais tout. »
La vieille dame fait un clin d'œil et continue avec une mine de conspiratrice.
« En fait, je ne fais rien du tout. C'est triste, hein ? Que veux-tu ? J'ai toujours été servie depuis que je suis toute petite. Ce n'est pas à mon âge que je vais me mettre à faire la vaisselle, laver par terre et épousseter les bibelots. Je ne sais même pas comment cela se fait. Si vous voulez, je vous fais la vaisselle et je vous remets la cuisine en ordre. Ce sera vite fait. »
Il n'en est pas question, tu es mon invité. Où as-tu vu que j'invite mes amis pour nettoyer chez moi ?
Anne n'insiste pas, elle réfléchit.
Vous pourriez essayer de vous adresser à une agence d'intérim, ils vous trouveront quelqu'un.
Je l'ai fait, ils m'ont d'abord envoyé une femme qui était toujours fatiguée. Elle arrivait le matin, elle était fatiguée, elle repartait le soir, elle n'avait presque rien fait, elle était épuisée. Naturellement, je n'ai pas pu la garder. La semaine dernière, ils m'en ont envoyé une autre, une jeune. Elle n'était pas fatiguée, mais elle ne voulait faire que ce qui lui plaisait, et encore à son idée. Elle se croyait chez elle, c'est elle qui décidait. C'est tout juste si elle ne me donnait pas des ordres. Ça m'a mise en rogne, cette histoire. Je ne peux tout de même pas en essayer 50 avant d'en trouver une qui fasse l'affaire. Il me semble que c'est le travail des agences de faire la sélection. Je les paye assez cher pour cela. »
Tout en dégustant son florentin, Anne réfléchit. Cela ne lui déplairait pas de venir faire quelques heures de ménage chez la comtesse, mais elle n'a pas beaucoup de temps disponible et elle croit comprendre que la vieille dame a besoin de quelqu'un à plein temps. Tout à coup, elle repense à Chloé.
« Mais non, ce n'est pas du tout le style, ça risquerait de faire des étincelles. Pourtant, Chloé est une chic fille et je l'ai vue à l'œuvre pour faire le ménage chez Marianne. Quand elle se met au boulot, elle ne fait pas semblant. »
« Tu as l'air toute songeuse. »«
Je pense à quelqu'un. »«
Tu penses à ton amoureux ?»«
Mais non, » répond Anne en riant. « Je pense à une amie qui cherche du travail. »«
Tu crois qu'elle pourrait me dépanner ?»«
Je crois que vous pourriez vous dépanner mutuellement. Elle est gentille, serviable, travailleuse. Seulement, ce n'est pas du tout le style aristocrate. Elle serait plutôt du genre provoque, pas vulgaire mais gouailleur. Elle a son genre à elle, inoubliable. » Avec ça, elle vient de traverser une mauvaise passe sentimentale et elle a besoin de réconfort et de se remettre à flot.
Si tu crois qu'elle peut m'aider, au moins quelque temps, et si en plus ça peut l'aider,
de toute façon, je ne peux pas rester comme ça, il me faut quelqu'un. Alors, si tu me la recommandes, je te fais confiance, ce sera toujours moins risqué qu'avec les agences. Parle-lui en, nous verrons bien.
Je peux l'appeler tout de suite, si vous voulez.
Là, tout de suite ?
« Oui, voyez, j'ai mon téléphone portable dans la poche et son numéro est enregistré. »«
Vous êtes terribles, les jeunes. Vous êtes toujours pressés, on parle et hop, un coup de téléphone et c'est fait. »«
Eh bien, d'accord, appelle-la. »«
Mais tu vas me faire plaisir, tu vas l'appeler avec mon téléphone. »« Ce n'est tout de même pas à toi de payer mes communications. »
Anne compose le numéro de Chloé sur le vieux téléphone à fil et à cadran, posé sur un guéridon dans le salon de la comtesse d'Armentières.
« Allô, Chloé ? C'est Anne. Tu vas bien ?»«
Ma pauvre ! Mais justement, j'ai du nouveau pour toi. »«
Oui, pour toi. Je t'ai trouvé du boulot. Ce serait pour faire bonne et dame de compagnie chez une comtesse à Paris, pas loin de chez moi.
C'est une vieille dame très sympathique, mais son ancienne bonne s'est cassée la cheville dans l'escalier et toute seule, elle ne s'en sort pas.
Mais dès que tu peux, le plus tôt sera le mieux. »
Anne se tourne vers la vieille dame.
« Mon ami demande si vous pouvez la loger. »«
Mais bien sûr, j'ai 6 chambres ici. Elle aura le choix. Elle pourra même en changer, comme c'est elle qui fera le ménage. »«
Est-ce qu'elle conduit ?»«
Chloé, la comtesse demande si tu as ton permis. »«
Oui, elle l'a, mais elle n'a pas de voiture. »«
Alors c'est parfait. J'ai une voiture, moi. Enfin, c'est celle de Monsieur le Comte, mais je l'ai gardée. » Je la conduis bien de temps en temps sur des petits trajets, mais normalement je n'ai pas le droit, je n'ai jamais passé l'examen du permis de conduire. »
Anne rit et ne peut s'empêcher de répéter à Chloé la réplique de la comtesse. Puis elle se tourne à nouveau vers la vieille dame.
« Je vais vous la passer, vous vous entendrez mieux sans mon intermédiaire. »
Anne fait passer le combiné.
« Allô ?» dit la comtesse. « Bonjour, mademoiselle. » « Alors, vous accepteriez de venir mettre un peu d'ordre chez moi ?»«
Et pour vos gages, vous voudriez combien ?»«
Non, dites-moi combien il vous faut, que nous nous entendions sur un chiffre. »«
Ah non, pas question. À ce tarif-là, c'est de l'esclavage. Je suis exigeante sur le travail, mais j'ai les moyens de payer mon personnel. On pourrait partir sur le double, au moins, logé, nourri. Cela vous convient ?»
« Eh bien, dès que possible, parce que j'ai beau avoir beaucoup de vaisselle, je n'aurai bientôt plus de petites cuillères et de verres propres. »«
D'accord, à demain. »
La vieille dame raccroche et se tourne vers Anne.
« Tu me sors une belle épine du pied avec ton amie. Vraiment, je ne savais plus vers qui me tourner. »
Il n'y a plus de thé, plus de Florentin. La comtesse se lève comme pour signifier que l'entretien est terminé. Mais Anne n'est pas venue pour résoudre les problèmes de ménage de la comtesse, ni pour caser son amie Chloé. Elle est venue pour éclaircir certains points de son enquête. Elle rappelle la vieille dame qui déjà s'éloigne.
« Excusez-moi de vous importuner encore. Avec mon voisin, nous continuons l'enquête sur la mort d'Émile Perrier et j'ai quelques questions à vous poser. »
La vieille dame paraît contrariée. Puis elle déclare «
« Alors, dans ce cas, je vous prie de m'attendre un instant. Juste une petite urgence, je reviens. »
Anne sourit en voyant la vieille dame s'éloigner précipitamment. Elle comprend qu'il s'agit d'une pause pipi, mais que ce n'est pas le genre de choses qu'on peut avouer dans un salon de cette classe. La comtesse d'Armentières revient avec le sourire aux lèvres et reprend place dans son fauteuil.
« Je t'écoute. »
« Émile Perrier vous aurait-il parlé d'un fils, Antoine, qu'il a eu avec sa seconde femme ?»«
Oui, c'est vrai. Je ne connaissais pas son prénom, mais il y a quelques mois, Émile Perrier m'a dit avoir revu ce fils qu'il avait perdu de vue à l'âge de 3 ans. »«
Cela lui avait fait plaisir ?»«
Oh oui, cela réveillait en lui des événements douloureux de sa vie, mais il m'a semblé plutôt fier de son jeune fils. » »«
Une autre question. » Pensez-vous qu'Émile Perrier ait pu avoir de grosses dettes ou être sous la coupe d'un maître chanteur ?
Franchement, non. Il était assez gai, ouvert, il ne semblait pas craindre quelqu'un ou quelque chose. C'est d'ailleurs ce qui me plaisait en lui. C'était un homme solide sur qui on pouvait s'appuyer. Bien qu'assez âgé, il restait un homme d'action. S'il y avait quelque chose à faire, il n'hésitait pas, il faisait.
Et ma dernière question ? Vous m'avez dit que lors de vos voyages, il insistait toujours galamment pour payer. Comment payait-il ? Par carte bancaire, par chèque ou en espèces ?
Toujours en espèces. Il disait avoir horreur des cartes de crédit parce que la banque peut savoir jour par jour et heure par heure ce que vous avez dépensé, où vous êtes allé et ce que vous avez fait.
Je vous remercie beaucoup. Votre dernière réponse nous éclaire particulièrement.
Vous avez une piste ?
Pas encore vraiment, mais un certain nombre d'éléments paraissent aller dans le même sens. Gardez ça pour vous, mais il nous semblerait qu'Émile Perrier ait pu amasser une sorte de magot. Peut-être l'a-t-on tué pour le voler ?